Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, nous allons présenter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. L'heure suivante, vous allez écouter le programme culturel Persona Indonesia et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement indonésien encourage l'augmentation de la concurrence du travail. La commémoration de la journée indépendante, le Liban a apprécié la cohérence d'Indonésie pour envoyer des troupes provisoires de l'ONU. L'Indonésie doit anticiper les politiques commerciales de Trump. L'Indonésie espère l'appui du Pays-Bas pour développer le secteur de la santé. Et enfin, le président Jokowi demande au premier ministre Ruth d'aider à faciliter des négociations CEPA, l'Indonésie, l'Union européenne. Voici le journal complet. La ministre de coordination pour le développement humain et la culture, Madame Puan Maharani, a ouvert le séminaire de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre l'Indonésie et les Pays-Bas mercredi à Jakarta. L'ouverture du séminaire est assistée par, entre autres, la ministre de la Santé, Madame Nila Djuta F. Muluk, et le premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Dans son discours, la ministre Puan Maharani a dit que le gouvernement indonésien déterminé à améliorer la compétitivité du secteur du travail indonésien pour faire face à la mondialisation. Ces efforts sont faits par l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour le secteur du travail indonésien. Selon la ministre Puan, l'éducation peut produire des travailleurs compétents pour répondre aux besoins du secteur industriel aujourd'hui. Le gouvernement indonésien essaie d'améliorer la compétitivité pour faire face à la mondialisation. Pour la raison, la qualité des ressources humaines indonésiennes doit être améliorée. Le gouvernement continue de trouver des solutions pour améliorer la qualité des ressources humaines indonésiennes par l'éducation et la formation. Le président a demandé que la qualité de l'enseignement professionnel devrait être améliorée. L'objectif est que l'éducation peut produire des travailleurs compétents et prospectifs pour répondre aux besoins du secteur industriel. Selon la ministre Puan Maharani, aujourd'hui, 60% des travailleurs indonésiens viennent du niveau de l'enseignement secondaire. Seulement 10% des travailleurs indonésiens ayant des enseignements supérieurs. Ceci affecte le niveau de la productivité et de la compétitivité des travailleurs. Cependant, le premier ministre du Pays-Bas, Mark Rutte, espère le séminaire de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle de l'Indonésie et les Pays-Bas seront le moyen pour traduire toutes les formes de coopération qui ont existé entre l'Indonésie et les Pays-Bas dans le domaine de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'ambassade d'Indonésie au Liban célèbre l'anniversaire de l'indépendance du Liban mardi le 22 novembre à Jakarta. Le chef du représentant de l'ambassade du Liban à l'Indonésie, Johanna Maria Azzi, dans son discours a dit qu'actuellement, les peuples libanais commémorent l'élection du nouveau président Michel Naim Aoun après que le vide de la présidence pendant 2 ans. Relatif à la relation entre l'Indonésie et le Liban, Juana Maria Azi apprécie le gouvernement indonésien d'une manière durable tout en envoyant des troupes de l'ONU au Liban ou la FINUL. Je tiens à remercier le gouvernement indonésien pour le soutien continu qu'à travers l'envoi des troupes de la FINUL au sud du Liban, à travers le contingent de Garuda qui contribue à maintenir la stabilité et la paix dans le sud. Le chef du représentant de l'ambassade du Liban, Juana Maria Agi, a dit « La relation bilatérale entre l'Indonésie et le Liban augmente de plus en plus. » En octobre, 50 délégations libanaises du commerce visitent l'Indonésie. Cette visite pourrait plus resserrer la coopération en signant le protocole d'accord des deux pays dans le domaine de l'échange de leçons et d'accroître le contact des gens aux gens. Cette convocation a été suivie par la première ministre indonésienne de l'autonomisation des appareils d'État et la réforme bureaucratique, Asman Abnur. Le ministre Asman Abnur a félicité le président élu du Liban. Le chef de l'agence de l'évaluation et du développement du ministère du Commerce, Cahya Widayanti, a déclaré que l'Indonésie devait anticiper les politiques commerciales de Trump. Selon elle, l'Indonésie doit anticiper les politiques relatives à l'intention des États-Unis de quitter les États-Unis du partenariat transpacifique à Jakarta mardi le 22 novembre. Nous devons anticiper sur les campagnes de Donald Trump auparavant. Même si ce n'est pas fait, mais au moins maintenant nous devons commencer à anticiper. Par exemple, TPP, NAFTA, puis il examinerait le commerce avec la Chine. Cahya Widayanti a ajouté, TPP est un accord commercial entre 12 pays signé le 4 février 2016. Les membres sont les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Chili, le Pérou, Singapour, le Brunei, la Malaisie et le Vietnam. Le TPP réglemente la façon dont les fournisseurs de marché public des pays membres peuvent participer à d'autres membres du TPP. Selon Cahaya, l'abandon des États-Unis rendra l'accord du partenariat transpacifique n'a pas de sens. Plutôt, l'Indonésie a exprimé son intérêt à adhérer au TPP. Toutefois, selon Cahaya, avec ou sans TPP, les entreprises publiques indonésiennes doivent entreprendre des réformes et améliorer leur compétitivité. Le gouvernement indonésien a exprimé l'espoir que les Pays-Bas soutiendraient le programme de la formation des médecins du premier service, un programme destiné aux médecins pour obtenir un diplôme équivalent à un chef de file spécialisé et à dispenser des services de santé de qualité au niveau primaire. Dans son discours à la cérémonie de clôture du séminaire de la République d'Indonésie et néerlandais pour atteindre la couverture universelle de la santé, le renforcement des soins primaires mercredi à Jakarta, la ministre indonésienne de coordination pour le développement humain et la culture, Puan Maharani, a déclaré que le gouvernement néerlandais a une expérience dans ce domaine pour soutenir l'Indonésie. La ministre Puan Maharani a exprimé l'espoir que la collaboration entre l'Indonésie et les Pays-Bas serait en mesure d'améliorer la capacité du médecin indonésien à servir avec des services médicaux de haute qualité. Nous espérons qu'à travers l'expérience du gouvernement néerlandais dans le développement du programme de médecins de famille, nous sommes en mesure de développer une collaboration pour soutenir la mise en œuvre du programme de médecins de première ligne en Indonésie. Pendant ce temps, le premier ministre néerlandais Mark Rutte a apprécié l'engagement de l'Indonésie à lutter contre les problèmes de santé mondiale comme le Zika et la grippe aviaire. En vice-versa, Mark Rutte a également reconnu le défi néerlandais dans le secteur de la santé comme le défi des soins de santé pour les travailleurs et l'augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète et de l'obésité. Par conséquent, le Premier ministre Mark Rutte a exprimé sa volonté de travailler avec son homologue indonésien pour partager des expériences pour améliorer les soins de santé primaire. Face à de tels défis, selon lui, les deux pays ont besoin d'une approche intime et intégrale, ce qui signifie que toutes les parties dans les soins de santé devraient travailler ensemble, y compris les constructeurs de systèmes d'éducation ainsi que la communication de l'information et des développeurs de technologies. Le président Joko Widodo a demandé au premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, d'aider les négociations de l'accord de partenariat économique global, ou CEPA, entre l'Indonésie et l'Union européenne. Cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, au palais présidentiel à Jakarta mercredi. Selon la ministre Retno, dans la rencontre entre les deux leaders de l'État, ils ont discuté des questions économiques. En ce qui concerne la demande de l'Union européenne à des taux d'imposition liés au commerce à 0%, Retno Marsudi a dit que cela dépend du résultat des négociations. D'autres questions qui ont été discutées par les deux chefs d'État étaient l'autoriser des exportations de bois d'Indonésie vers l'Europe avec la licence des produits indonésiens ont la compétitivité la plus élevée que d'autres. Salut à tous, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Sixième l'antenne pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre. L'Indonésie est menacée de manquer d'enseignants permanents. Sur la base du mandat de la Constitution 1945, le but de l'éducation est d'éduquer la nation. Les enseignants ont un rôle majeur et stratégique dans le processus éducatif pour éduquer la nation. Sûrement, si la qualité des enseignants est faible, il en va de la qualité de l'éducation et vice-versa. En Indonésie, au moins, il y a des questions clés liées aux enseignants qui auraient dû être positionnés comme la clé de la mise en œuvre de l'éducation, comme le recrutement des enseignants, la répartition inégale des enseignants, le développement des carrières des enseignants, le statut et le bien-être des enseignants, ainsi que la politisation des enseignants se sont produits jusqu'à présent. Au milieu de la question de la répartition inégale des enseignants qui n'a pas été résolue jusqu'à présent, l'Indonésie est menacée de faire face à des problèmes plus graves liés aux enseignants. Au cours de la période 2016-2020, environ 300 000 enseignants permanents seront mis à la retraite. Cela signifie qu'en moyenne chaque année, 75 000 enseignants sont retraités. Pendant ce temps, la fourniture de nouveaux enseignants certifié conformément à la loi numéro 14/2005 sur les enseignants et les professeurs, il y a seulement 3000 jusqu'à 5000 personnes par an. Cela signifie qu'au cours de cette période, le gouvernement ne peut fournir de façon optimale que 25 000 enseignants permanents. Sur la base des données de l'éducation de base du ministère de l'Éducation et de la Culture, à l'école primaire, collégiale et secondaire ou école professionnelle, le manque d'enseignants reste jusqu'à 550 000 personnes, en particulier pour les enseignants productifs de l'école secondaire ou professionnelle SMK. Il y a un déficit d'environ 91 000 personnes. Ce problème est qu'il n'y a pas de solution immédiate et sage. Cela réduira la compétitivité de la nation à l'ère de la mondialisation, parce que le recrutement des nouveaux éducateurs qualifiés est plus lente que le taux de croissance des enfants indonésiens qui entrent en âge scolaire. Comme tenu, le besoin d'enseignants, le rôle de l'établissement d'enseignants pour les enseignants est très important. Être un enseignant est devenu une profession, si bien qu'il faut avoir la restructuration de l'éducation des enseignants afin de générer l'enseignant qualifié. Les établissements d'enseignants doivent être en mesure de fournir suffisamment d'enseignants qualifiés. Le manque de capacité du gouvernement à créer de nouveaux éducateurs qualifiés se reflète dans la capacité des pensionnats des institutions d'éducation de la force éducative, ou LPTK, qui atteint environ 5 000. En fait, sur la base des données du ministère de l'Éducation et de la Culture, le besoin d'enseignants varie de 40 000 à 60 000 par an. LPTK a un rôle majeur à jouer dans la certification des enseignants tels qu'elle a été définie par le ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur pour les érudits qui deviendront des éducateurs. Par conséquent, la coordination entre le ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation et de la Culture devrait être améliorée. Il est nécessaire d'inventorier les problèmes des enseignants, en particulier en ce qui concerne leur qualification et leur certification, et il doit y avoir des solutions concernant le recrutement des enseignants en fonction de l'âge, des années de service, etc. En outre, les ministères concernés doivent élaborer un plan d'action visant à accroître la capacité des écoles d'enseignement secondaire de LPTK. Et ce qui est plus important encore, il doit y avoir une amélioration de la qualité de l'éducation dans le secteur 3T, à savoir Terloir, Terdepan et Tertinggal, qui signifie l'extrême, la frontière et le retard. Le gouvernement devrait élaborer un plan détaillé pour répondre aux besoins des enseignants par domaine d'études et par région. Sur la base de cette planification, la fourniture d'enseignants professionnels effectuée par LPTK peut se dérouler sans heurts. Série du temps, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer ce soir, 24 novembre 1965, coup d'État de Mobutu. Le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général Joseph Désiré Mobutu, s'empare du pouvoir et élimine le président Joseph Kasavubu. Mobutu bénéficie alors du soutien des Occidentaux. Cumulant les fonctions de président de la République et de premier ministre, il met en place un régime autoritaire et corrompu. L'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997 le contraindra à l'exil. En charge, le 24 novembre 1969, Apollodus a atterri dans l'océan Pacifique, mettant fin à la deuxième mission vers la Lune. Apollodus est la sixième mission du programme Apollo de la NASA et la deuxième sonde datant de la Lune. Apollodus a été lancé du Kennedy Space Center du complexe 39 en Floride aux États-Unis le 14 novembre 1969, 19 novembre 1969, a atterri dans Oceanus Procellarum. La Lune est Et il est revenu sur Terre le 24 novembre 1969, mettant fin à la mission. On termine le 24 novembre 1963, Jack Ruby abat Oswald. Il est 11h21 lorsque Lee Harvey Oswald sort du commissariat pour être transféré en prison. Un homme s'approche, sort un revolver à l'abat devant les caméras qui retransmettent les images en direct. Jack Ruby vient de tuer l'assassin présumé de Kennedy. Il dit avoir agi pour un coup de folie, mais aussi pour sauver l'honneur des Juifs que l'extrême droite a incriminé. Certains présenteront cette intervention comme un coup monté. Toutefois, cette hypothèse ne sera pas retenue en Ruby, sera condamnée à mort. Ces auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie, l'édition 24 novembre. À demain.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Les hommes d'affaires de la Papouasie doivent être prêts à faire face à la communauté économique de l'ASEAN ». Le gouvernement provincial de la Papouasie demande aux hommes d'affaires de cette province d'être prêts à faire face à la communauté économique de l'ASEAN, y compris les hommes d'affaires provenant de l'étranger, et pour améliorer les ressources humaines afin d'avoir un avantage concurrentiel. Cela a été déclaré par le haut fonctionnaire de la Papouasie, Elia Lupati, le lundi 21 novembre à Jayapura. Elia Lupati souhaite que les entrepreneurs en Papouasie puissent augmenter leur production afin de rivaliser avec les produits fabriqués à l'étranger qui sont entrés dans cette région. Comme par exemple, dans la production d'un produit, il doit passer le test de l'Agence nationale des médicaments et de l'alimentation de la République d'Indonésie, où la production possède la certification, de sorte qu'il peut être acheté par les consommateurs. Par conséquent, Elia Lupati espère que le bureau commercial peut fournir une assistance et des conseils aux hommes d'affaires en Papouasie, de sorte que la production qui est vendue au public ont une grande compétitivité contre les marchandises de l'étranger. Par la socialisation de l'éducation publique, les employeurs devraient être en mesure d'accroître sa compréhension des projections économiques et la politique nationale pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, qui permettra de déterminer la posture de la force économique de l'Indonésie dans la région de l'ASEAN. Cependant, le président du comité d'organisation de la socialisation, M. Herman Bleskadit, a déclaré qu'à travers la socialisation, les entreprises, les intervenants et aussi les universitaires devraient augmenter leur compréhension de la communauté économique de l'ASEAN. Il est souhaitable que les entrepreneurs et le public puissent saisir les opportunités de marché et de préparer les ressources humaines qui sont prêtes à concurrencer dans le marché de l'ASEAN. En outre, la socialisation devrait créer une opinion publique positive sur la communauté économique de l'ASEAN, encourager le public à soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer la compétitivité de l'Indonésie et améliorer l'économie et la prospérité. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La ministre de coordination pour le développement humain et la culture, Madame Puan Maharani, a ouvert le séminaire de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre l'Indonésie et les Pays-Bas mercredi à Jakarta. L'ouverture du séminaire est assistée par, entre autres, la ministre de la Santé, Madame Nila Juita F. Muluk, et le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Dans son discours, la ministre Puan Maharani a dit que le gouvernement indonésien est déterminé à améliorer la compétitivité du secteur du travail indonésien pour faire face à la mondialisation. Ces efforts sont faits par l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour le secteur du travail indonésien. Selon la ministre Puan, l'éducation peut produire des travailleurs compétents pour répondre aux besoins du secteur industriel aujourd'hui. Le gouvernement indonésien essaie d'améliorer la compétitivité pour faire face à la mondialisation. Pour la raison, la qualité des ressources humaines indonésiennes doit être améliorée. Le gouvernement continue de trouver des solutions pour améliorer la qualité des ressources humaines indonésiennes par l'éducation et la formation. Le président a demandé que la qualité de l'enseignement professionnel devrait être améliorée. L'objectif est que l'éducation peut produire des travailleurs compétents et prospectifs pour répondre aux besoins du secteur industriel. Selon la ministre Puan Maharani, aujourd'hui, 60% des travailleurs indonésiens viennent du niveau de l'enseignement secondaire. Seulement 10% des travailleurs indonésiens ayant des enseignements supérieurs. Ceci affecte le niveau de la productivité et de la compétitivité des travailleurs. Cependant, le premier ministre du Pays-Bas, Mark Rutte, espère que le séminaire de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle de l'Indonésie et les Pays-Bas seront le moyen pour traduire toutes les formes de coopération qui ont existé entre l'Indonésie et les Pays-Bas dans le domaine de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. L'ambassade d'Indonésie au Liban célèbre l'anniversaire de l'indépendance du Liban mardi le 22 novembre à Jakarta. Le chef de représentant de l'ambassade du Liban à l'Indonésie, Johanna Maria Azzi, dans son discours a dit qu'actuellement, les peuples libanais commémorent l'élection du nouveau président Michel Naim Aoun après que le vide de la présidence pendant 2 ans. Relatif à la relation entre l'Indonésie et le Liban, Johanna Maria Azzi apprécie le gouvernement indonésien d'une manière durable tout en envoyant des troupes de l'ONU au Liban au Lafinul. Je tiens à remercier le gouvernement indonésien pour le soutien continu qu'à travers l'envoi des troupes de l'Afinul au sud du Liban, à travers le contingent de Garuda qui contribue à maintenir la stabilité et la paix dans le sud. Le chef du représentant de l'ambassade du Liban, Johanna Maria Azzi, a dit « La relation bilatérale entre l'Indonésie et le Liban augmente de plus en plus ». En octobre, 50 délégations libanaises du commerce visitent l'Indonésie. Cette visite pourrait plus resserrer la coopération en signant le protocole d'accord des deux pays dans le domaine de l'échange de leçons et d'accroître le contact des gens aux gens. Cette convocation a été suivie par la première ministre indonésienne de l'autonomisation des appareils d'État et la réforme bureaucratique, Asman Abnur. Le ministre Asman Abnur a félicité le président élu du Liban. Le chef de l'Agence de l'évaluation et du développement du ministère du Commerce, Cahya Widayanti, a déclaré que l'Indonésie devait anticiper les politiques commerciales de Trump. Selon elle, l'Indonésie doit anticiper les politiques relatives à l'intention des États-Unis de quitter les États-Unis du partenariat transpacifique à Jakarta mardi le 22 novembre. Nous devons anticiper sur les campagnes de Donald Trump auparavant. Même si ce n'est pas fait, mais au moins maintenant nous devons commencer à anticiper. Par exemple, TPP, NAFTA, puis il examinerait le commerce avec la Chine. Cahya Widayanti a ajouté, TPP est un accord commercial entre 12 pays signé le 4 février 2016. Les membres sont les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Chili, le Pérou, Singapour, le Brunei, la Malaisie et le Vietnam. Le TPP réglemente la façon dont les fournisseurs de marché public des pays membres peuvent participer à d'autres membres du TPP. Selon Cahaya, l'abandon des États-Unis rendra l'accord du partenariat transpacifique n'a pas de sens. Plutôt, l'Indonésie a exprimé son intérêt à adhérer au TPP. Toutefois, selon Cahaya, avec ou sans TPP, les entreprises publiques indonésiennes doivent entreprendre des réformes et améliorer leur compétitivité. Le gouvernement indonésien a exprimé l'espoir que les Pays-Bas soutiendraient le programme de la formation des médecins du premier service, un programme destiné aux médecins pour obtenir un diplôme équivalent à un chef de file spécialisé et à dispenser des services de santé de qualité au niveau primaire. Dans son discours à la cérémonie de clôture du séminaire de la République d'Indonésie et néerlandais pour atteindre la couverture universelle de la santé, le renforcement des soins primaires mercredi à Jakarta, la ministre indonésienne de coordination pour le développement humain et la culture, Puan Maharani, a déclaré que le gouvernement néerlandais a une expérience dans ce domaine pour soutenir l'Indonésie. La ministre Puan Maharani a exprimé l'espoir que la collaboration entre l'Indonésie et les Pays-Bas serait en mesure d'améliorer la capacité du médecin indonésien à servir avec des services médicaux de haute qualité. Nous espérons qu'à travers l'expérience du gouvernement néerlandais dans le développement du programme de médecins de famille, nous sommes en mesure de développer une collaboration pour soutenir la mise en œuvre du programme de médecins de première ligne en Indonésie. Pendant ce temps, le premier ministre néerlandais Mark Rutte a apprécié l'engagement d'Indonésie à lutter contre les problèmes de santé mondiale comme le Zika et la grippe aviaire. En vice-versa, Mark Rutte a également reconnu le défi néerlandais dans le secteur de la santé comme le défi des soins de santé pour les travailleurs et l'augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète et de l'obésité. Par conséquent, le Premier ministre Mark Rutte a exprimé sa volonté de travailler avec son homologue indonésien pour partager des expériences pour améliorer les soins de santé primaire. face à de tels défis, selon lui, les deux pays ont besoin d'une approche intime et intégrale, ce qui signifie que toutes les parties dans les soins de santé devraient travailler ensemble, y compris les constructeurs de systèmes d'éducation ainsi que la communication de l'information et des développeurs de technologies. Le président Joko Widodo a demandé au premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, d'aider les négociations de l'accord de partenariat économique global, ou CEPA, entre l'Indonésie et l'Union européenne. Cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, au palais présidentiel à Jakarta mercredi. Selon la ministre Retno, dans la rencontre entre les deux leaders de l'État, ils ont discuté des questions économiques. En ce qui concerne la demande de l'Union européenne à des taux d'imposition liés au commerce à 0%, Retno Marsudi a dit que cela dépend du résultat des négociations. D'autres questions qui ont été discutées par les deux chefs d'État étaient l'autoriser des exportations de bois d'Indonésie vers l'Europe avec la licence des produits indonésiens ont la compétitivité la plus élevée que d'autres. Salutaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter Une village de Pajam. Wakatobi, à Sulawesi du Sud-Est, est l'une des 10 destinations touristiques prioritaires en Indonésie. Elle est célébrée pour la belle nature sous-marine. Wakatobi a 3000 espèces de poissons et 600 espèces de corail mondial. Cela équivaut à 75% des récifs coralliens dans le monde. On peut faire de diverses façons pour profiter de la beauté sous l'eau de Wakatobi, telles que plonger ou bien nager. Plonger est l'une des principales activités touristiques à Wakatobi parce que la beauté du sous-marin est très variable et le courant n'est pas trop fort. Non seulement la nature sous-marine qui peut être appréciée, les attractions culturelles et historiques de Wakatobi peuvent également être profitées en visitant un village de Pajam. Le village de Pajam est le plus ancien village de Wakatobi. Pajam est une combinaison de deux villages tels que Palia et Jamaraka. Ce village est situé sur l'île de Kaledupa. Vous pouvez passer de l'île de Wangi-Wangi pendant 4 heures. Pour se rendre à l'île de Wangi-Wangi, vous pouvez choisir un vol de Jakarta à destination de Kendari. Et de Kendari, capitale de Sulawesi du Sud-Est, le voyage est continué en utilisant un ferryboat en bois de Port Kendari à l'île de Wangi-Wangi. Les visiteurs du village de Pajam doivent porter des vêtements décents et couverts jusqu'aux genoux. Le village de Pajam applique encore la culture au tissage de leurs ancêtres. Cette activité est la source de revenus de la population locale en dehors de l'agriculture. Les voyageurs peuvent apprendre à tisser ici. Le processus de tissage est bien connu, assez difficile. Tisser se compose de 3 étapes telles que purunga, oluri et la phase de tissage. Pour produire un sarong, l'artisan nécessite de 7 jusqu'à 10 jours. Voilà pourquoi le prix de tissu est assez cher par rapport au tissu ordinaire. Le prix de tissu tissé dans ce village est environ 500 000 rupiah et le prix de meilleur tissu atteint jusqu'à 800 000 rupiahs. Comme le plus ancien village à l'époque du royaume Kalidupa, Pajam possède aussi une destination touristique historique, telle que la forteresse de Kamali. Ce site touristique est situé non loin de la porte du village Pajam, seulement environ 500 mètres à pied. À l'intérieur, il y a seulement deux bâtiments, tels que le château et la salle. Jeremy, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « Le village de Pajam ». Merci de votre attention et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis de la Voix de l'Indonésie, je suis ravi de vous voir dans l'émission de bagages de warna-warni ou la couleur indonésienne. Dans cette édition, je présente des informations à propos du Festival Patrol. Assurez-vous que vous restez avec nous à RRI World Service La Voix de l'Indonésie. Chers amis, de 26 jusqu'à 27 juin, l'administration régionale du district Banyuwangi, en province de Java de l'Est, a tenu le festival de patrol ou le festival de patrouiller. Ce festival est suivi par des groupes de musique patrouillée dans Banyuwangi. Le patrol, c'est-à-dire la musique ethnique de Banyuwangi dont les instruments sont en bambou. Ces instruments comprennent katir, gong, kempul, angklung renteng, ketuk kendang et des flûtes. Le but de jouer la musique de patrol par un groupe de personnes est pour sensibiliser et faire réveiller les citoyens au temps de sahur. Sahur, c'est manger à l'aube afin de faire le jeûne pendant le mois de Ramadan, ou bien cette musique est jouée lors de faire patrouiller au village au soir. Habituellement, lors de la lecture d'une patrouiller, les résidents locaux ont chanté la chanson de Banyuwangi ou l'éloge du livre de Nasaf de Berzanzi, ainsi que un certain nombre de chansons respirent l'islam ou la chanson en nuance l'islam. Chers amis, le but d'invitation du district de Banyuwangi organiser ce festival est pour but faire revivre l'ancienne tradition qui commence à être déplacée en raison de l'évolution technologique. De plus, dans le patrouiller contient la tradition solidarité qui devrait continuer à être conservée. Parce que la tradition de patrouiller est non seulement éveiller les gens au repas, mais aussi en même temps le maintien de la sécurité environnementale. Uniquement, cet art distinctif de Banyuwangi organise seulement pendant le Ramadan. Chers amis, les participants du festival de patrouiller sont d'origine de tous les districts à Banyuwangi. Chaque district envoie un groupe. Pour le total, à la fin de s'adresser à, c'est-à-dire s'adresser, il y a 24 groupes en compétition avec leur talent. Un groupe se compose de 12 personnes selon leur expertise respective. Ils jouent flûte, daretek, gong, tempal, carillon, eolien ou petit. En plus des instruments de musique, le festival est également accompagné de chanteurs pour accompagner le patrouiller de la musique avec un certain nombre de chansons en nuances de l'islam, comme Mourouk, Ngaji, Tombo Ati. Ce sont l'hymne du festival qui doit être présenté. Dans le festival, les participants se montrent dans les rues, dans la ville de Banyuwangi pour deux nuits. Se montrent dans les rues, dans la ville de Banyuwangi pour deux nuits d'affilée. Parmi les 24 groupes de musique, nous choisissons 5 meilleurs présentateurs. Le comité a choisi, basé sur la thématique de jouer, de patrouiller, l'attraction apparence, l'harmonisation entre le rythme de la musique et de la comédie musicale réalisée, en plus de compacité, l'esprit et l'ordre quand joue le patron. Chers amis, c'était le magazine de warna-warni ou la couleur indonésienne. Merci beaucoup de votre fidélité et attention. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions, surtout le magazine de musique. Et vous pouvez entendre nos émissions via émetteur à ondes courtes sur 9525 kHz ou bien via le streaming audio sur www.voi.co.id. Je répète, www.voi.co.id ou bien via l'application sur votre gadget. Appuyez RRI Play. Chers amis, pour cette édition, le vendredi, on vous présente la chanteuse Ari Kusmiran. Comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de Ari Kusmiran intitulée Cinta Pertama. Bonne écoute.
Ketika jumpa pertama denganmu, pandanganmu menusuk di jantungku. Inikah cinta pertama? Ku tatap wajahmu. Cinta pertama.
Servidal Zami, Arikus Miran Ekonu Ozane 70. Ele ne o Weng Avril 1958 a Sidoarjo ang Provang de Java de Les. Ele le nier Zangfang de la Fami Kus Miran. Sa karier e komanse a l'école primaire. Ang 1970, elle a gagné le concours de chanter en Provang de Java de l'Est pour trois voix. Et après avoir le succès, une compagnie musicale a fait le contrat pour lui. Et puis, elle a fait son premier album intitulé Kenangan Desember. Servis les amis, la fortune de Arikus Miran est arrivée. Tout cela grâce aux compositeurs Isarianto, Arianto et Bartje van Houten. Bon, servidels amis, avant de continuer le magazine de musique avec Arikus Miran, écoutez encore la chanson Kenangan Desember chantée par Arikus Miran. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis, après son succès en Indonésie, Ari Kusmiran a fait le tour à l'étranger, surtout à Singapour. À ce pays, elle participe au festival en 1977, puis aux Philippines pour le premier festival asiatique de Shanghai. Après la musique, Ari Kusmiran a essayé de jouer la scène à la grand écran. En 1979, elle a joué au film de jeunesse Binalnya Anak Muda, Gita Cinta dari SMA et Arjuna Mencari Cinta. Plus tard, elle s'est mariée et après le mariage. Puis, Ari Kusmiran, avec son mari, a fondé une compagnie de musique qui produit aussi ses chansons et ses enfants. Et plus tard, cette compagnie est devenue la compagnie familiale. Bon, chers fidèles amis, c'était le magazine de musique avec Ari Kusmiran. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez donc deux dernières chansons de Ari Kusmiran intitulées « Untukmu sayang et setulus cintamu semurni cintaku ». Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Agar kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
Marilah bernyanyi bersamaku sayang, melodi yang indah curahan hatiku. Terlukislah cintaku dalam lagu ini. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.